Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Bien, nous allons ouvrir une page du livre des Actes, au chapitre 4, et nous allons lire un verset, ou peut-être plusieurs, on va voir, on va se laisser conduire. Donc, livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, et verset 32. Donc, j'ai sous les yeux cette parole, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme, et ils vont faire la démonstration de cette réalité spirituelle et fraternelle par la suite. Nul parmi les chrétiens, c'est moi qui paraphrase, nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie « fils d'exhortation », lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Alors nous plongeons directement dans les premières heures ou les premiers jours de ce que l'on a appelé l'Église primitive, c'est-à-dire la réunion, le rassemblement des hommes et des femmes qui ont cru dans la personne de Jésus, à son sacrifice et également à sa résurrection, et qui se sont rassemblés naturellement, et bien là, ensemble, ils avaient quelque chose en commun, c'est leur foi. Alors, il y avait certainement pas mal de juifs, et puis il y en a eu d'autres qui se sont rajoutés, mais il y a quelque chose qui va se passer, c'est il va se produire un miracle, en quelque sorte, un miracle qui va entraîner d'autres miracles. D'abord, le miracle de la foi commune de ces hommes, de ces femmes. Et il nous est dit que c'était une multitude. Et on aimerait bien voir ça aujourd'hui, ce soir en particulier, dans notre salle de 21 rue d'Ypres à Saint-Nazaire. La multitude, mais c'est l'œuvre de Dieu. Et nous voyons qu'il y a là une impulsion du Saint-Esprit, de l'Esprit. Et il nous est bien rappelé la multitude de ceux qui avaient cru. Et on ne veut pas dire qu'ils avaient des années à entendre des prédications. C'était tout neuf, c'était tout nouveau. C'est comme véritablement un volcan qui jaillit. Et ces hommes se sont rassemblés, mais avec une caractéristique, quelque chose qui était à souligner, un caractère particulier. Il nous est dit que ceux qui avaient cru n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. Il y a quelque chose de magnifique, parce que on pourrait se poser la question dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, le monde d'avant nous, le monde peut-être après nous, eh bien, qu'est-ce qui peut faire, ou y a-t-il un endroit sur la terre, y a-t-il une famille, y a-t-il une association, y a-t-il un syndicat, y a-t-il une politique, y a-t-il une économie qui fasse que les hommes soient d'un seul cœur et d'une seule âme? En politique, il n'y a pas de problème, ça se passe bien. Quand il s'agit des questions d'argent, ça se passe toujours très bien. Voilà, c'est la générosité, etc., etc. Et puis, dans bien d'autres situations, même dans les familles, qu'un seul cœur et qu'une seule âme. C'est vrai que la famille, c'est le noyau de la société, c'est la cellule de la société. Alors, ça commence naturellement, un homme, une femme qui s'aiment, et puis voilà, ils construisent une famille, qu'un seul cœur et qu'une seule âme, Bien qu'il y ait tellement d'accidents, d'incidents dans toutes ces constructions, là où il y a l'affect, le sentiment, partage des idées, enfin toutes sortes de choses. Moi je voudrais vous dire que si on a une référence, Et si on a un modèle qui est formidable, et on va voir les raisons finalement de ce que ça peut produire, parce qu'il faut connaître les causes, il nous est dit que tous ceux qui avaient cru n'étaient qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Moi, je trouve que c'est quelque chose de formidable. C'est très lapidaire. Hein, on n'a pas besoin de faire des explications, on comprend ce que ça veut dire. Un seul cœur, c'est le sentiment. Une âme, également, il y a l'engagement de la volonté. L'âme, c'est la volonté, c'est la pensée, c'est l'intelligence, c'est tout ce qui fait finalement la nature humaine, hein, dans son bon sens. Maintenant, il y a aussi le contraire, hein. Mais bon, je suis pas là pour parler du contraire, je suis parlé de ce qui est positif ce soir. Et ils étaient qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Eh bien, c'est l'Église. Ouais. Alors, peut-être, là, on est tous tout à fait convaincus, nous sommes des convaincus. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'il y avait, par exemple, des gens qui rentraient pour la première fois ici, qui pourraient dire, eh bien, à ce moment-là, bah oui, ne me parlez pas de l'Église, parce que des divisions, des histoires, et puis ceci, et puis cela, c'est véritablement exactement le contraire de ce que la Bible prétend. C'est pas une seule âme, c'est pas un seul cœur, mais c'est du n'importe quoi. Un véritable labyrinthe. Une cacophonie pas possible, où chacun tire à U et à Dia pour dire, eh bien, c'est moi qui ai la vérité, c'est moi qui ai raison, toi tu as tort, et tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela, parce que la référence que les gens se donnent, c'est eux-mêmes, vous comprenez, mais la référence que nous avons devant les yeux, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible, et elle est inspirée par le Seigneur. Un seul cœur, une seule âme. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, ça s'est démontré tout de suite, spontanément, hein, c'était pas la peine de faire la leçon, et que les premiers apôtres, premiers prédicateurs, les premiers orateurs, n'ont pas à dire, attendez, hein, maintenant que vous êtes chrétien, il va falloir que vous partagiez avec les autres. Rien du tout. Ça s'est fait spontanément. Ça s'est fait naturellement. Et ça s'est fait spirituellement. Parce que quand le cœur est envahi de l'esprit, eh bien, on en reparlera tout à l'heure, mais il y a quelque chose qui véritablement, eh bien, va être le fil conducteur, le fil rouge, si vous voulez. L'inspiration, c'est l'amour, tout simplement. L'amour. Alors, nul ne disait, eh bien, le peu que j'ai, c'est à moi, et je le garde. Alors, on connaît l'histoire qui se fait et suite, hein. Si vous avez regardé dans votre Bible, c'est l'histoire de gens très généreux qui s'appelaient Ananias et Saphira. Ouais. Enfin, bon, ça, c'est une autre affaire. Mais c'est bien parce que ça reste équilibré. Il y a le côté positif et le côté négatif, vous comprenez, hein, ce qu'il faut faire, et puis ce qu'il faut surtout pas faire, hein. Enfin bon, les pauvres, ça leur a pas réussi. Alors donc, ils mettaient tout en commun, vous rendez compte? Est-ce que vous seriez prêts, finalement, eh bien, à mettre tout en commun entre nous? Je vais chez vous, vous venez chez moi, vous ouvrez les placards, les tiroirs, vous faites comme ça, vous faites comme ceci, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, je vais peut-être vous susciter quand même un drôle de problème. Mais enfin, bon, il faut tenir compte du contexte de l'époque. Hein. Ça vous soulage, hein? Ah oui, heureusement je le dis. Mais c'est vrai que il y avait quelque chose qui était tout à fait particulier, c'est que d'abord, premièrement, il y a eu des gens riches qui se sont convertis, qui avaient de l'argent et qui ont donné. Faut le dire, hein, des gens de distinction, etc., etc. Il y en a, on le voit. Hein. Joseph, par exemple, c'est le cas. Hein, probablement, il était nanti un petit peu. Et puis, il y avait beaucoup de gens qui... Parce que vous savez, quand on est pauvre et quand on est miséreux et quand on a peu de choses, on n'a rien à perdre. Et c'est justement le message de Jésus qui attirait tous ces gens. Des veuves, des femmes sans... avec des enfants, avec des situations qui sont aujourd'hui que l'on pourrait dire que l'on retrouve. Mais aujourd'hui, il y a des assistantes sociales. Hein, il y a toutes sortes d'assistances. Voilà, on peut dire ça comme ça. Alors, nous voyons que... Ce qui a permis, c'est que, quelque part, devant ce souffle d'amour, de bienveillance, de considération, de componction, nous pourrions dire, c'est-à-dire qu'ils ont été touchés dans leur cœur, ces gens, et ils ont ouvert véritablement leur cœur profondément, et il nous est dit que ça a ouvert une autre porte. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force le témoignage de la résurrection de Jésus. Les apôtres, dans cette affaire, bah, c'était des pauvres aussi, hein, parce que quand on voit Pierre, Jacques et Jean, et puis bien d'autres, peut-être qu'il y en a eu, étaient peut-être un peu plus fortunés, mais toujours est-il que c'était des gens qui avaient abandonné leur travail, qui avaient abandonné finalement tout ce qu'ils avaient pour suivre Jésus. Donc ils ne pouvaient pas donner grand-chose. D'ailleurs, Pierre le dira, il dira, mais je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Vous connaissez l'histoire du boiteux qui était à la porte du temple de Jérusalem. Il rendait avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus. C'est intéressant de prendre en considération ce qu'il nous est dit, parce que devant ce souffle, et là où il y a de l'amour, là où il y a une unité, là où il y a de l'union, le Saint-Esprit vient et fait son œuvre. Et les apôtres, dans cette affaire, avaient quelque chose à donner, peut-être pas leurs moyens matériels pour subvenir aux indigents, mais ils avaient une parole qui valait de l'or. C'est-à-dire que cette parole, c'était qu'ils annonçaient Jésus et sa résurrection. Donc, ils situaient tout de suite pour tous ceux qui étaient là, à ce moment-là, qu'ils ne priaient pas un Dieu, ils n'adoraient pas un Dieu qui était mort ou restait mort dans le tombeau, mais un Dieu qui est ressuscité. Et ça, c'est très intéressant. C'est important de savoir que notre démarche, elle ne se tourne pas vers une idole, du bois, de l'argent, de l'or, inanimé et une chose, mais notre Dieu est un Dieu vivant parce qu'il est ressuscité. Et ça, c'est quelque chose. Et ça leur donnait du courage, naturellement. Et une grande grâce reposait sur eux tous. La bienfaisance apporte la grâce de Dieu. C'est une pluie bienfaisante. Et une église, une communauté où véritablement il y a cette ouverture de cœur, je vous l'assure, nous l'avons vérifié ici. Et c'est vrai, je dis pas ça parce que ça rentre dans la prédication, mais on s'aperçoit que Dieu bénit. Il nous bénit tous ensemble, il nous bénit également individuellement. Ouais. Et j'ai remarqué dans les églises, dans nos églises, dans la généralité, il y a peu de chômage. Il y en a, ça peut arriver, mais il y en a peu. Ah oui. Ou s'il y a un temps de chômage, à un moment ou à un autre, Dieu ouvre des portes. Et il donne. Parce que c'est Dieu qui donne la nourriture à celui qui mange. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et puis toutes sortes de choses comme ça. Et moi je dis qu'il est bien dit à ce moment-là, une grande grâce reposait sur eux tous. Et on n'est pas chrétien pour avoir la bénédiction de Dieu. On est chrétien parce qu'on aime le Seigneur. Parce qu'on est dans les plans de Dieu. Parce qu'on veut faire la volonté de Dieu. Et ensuite, c'est Dieu qui nous donne la prospérité et la bénédiction. Sur eux tous. Il n'y avait point d'indigents. Parce que c'était pourvu avec la générosité des autres. Et tous ceux qui possédaient ceci et cela. Eh bien, apportaient au pied des apôtres le prix pour pouvoir partager et... Alors on pourrait plus faire ça aujourd'hui parce que bon, le contexte est tout à fait différent. Mais une chose qui est certaine, c'est que ça s'est fait à ce moment-là et les bases de l'Église primitive a été fondée sur la foi, une Église qui était remplie du Saint-Esprit et une Église qui a ouvert son cœur. Il nous est donné l'exemple d'un certain personnage, il s'appelle Barnabas et moi j'aime bien parce que ça signifie Barnabas, fils d'exhortation. Et... vaut mieux être un fils d'exhortation qu'un fils de découragement. Celui qui casse, vous savez. Celui qui dit, mais on n'y arrivera jamais. Et puis les pauvres, on n'a pas besoin d'eux. On va rester entre soi et puis ça suffira bien. Hein. Et puis ceci et cela. Peut-être un peu le caractère de notre société d'aujourd'hui, bien qu'il y ait des choses qui soient faites. Hein, je ne veux pas non plus, mais ça c'est important. Fils d'exhortation. Et puis, un seul cœur, une seule âme. Je dis que c'est le ciment de l'amour, et puis c'est le ciment de l'unité. On le voit là, hein, c'est vraiment ce qui ressort. Hein, l'unité à travers, finalement, eh bien, le sentiment et à travers la foi qui inspire nos sentiments. La foi qui inspire nos sentiments. Écoutez, nous avons, par exemple, dans l'Évangile, on va tourner quelques pages. Alors pour cela, c'est intéressant parce que on peut faire un petit repérage. Écoutez bien. Parce que là, nous sommes au temps de l'Église qui apparaît, qui naît, l'Église chrétienne. Mais qu'est-ce que Jésus avait dit auparavant à ses disciples? Ils ne l'avaient pas oublié, puisqu'ils sont en train de le vivre et de le mettre en pratique. Dans Jean, chapitre 15, et au verset 12, alors il y a cette autre association de deux éléments qui sont importants. Jésus dira, chapitre 15, verset 12, « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Verset 17, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. C'est ici mon commandement. C'est pas à la discrétion des uns et des autres, au bon vouloir, non, c'est un commandement. Et vous savez que Jésus n'est pas venu pour nous donner des commandements, il y en a. Non, il est venu pour nous exhorter, il est venu pour nous encourager, il est venu pour nous montrer la voie, nous ouvrir le chemin, éclairer notre sentier, nous inspirait. Mais là, c'est un commandement, vous vous rendez compte? Un commandement, c'est ici donc ce que je vous commande. C'est un impératif. Parce que de cet impératif, lorsque nous y obéissons, il y a, excusez-moi l'expression, c'est ce que l'on dit, à la clé, il y a une bénédiction comme nous l'avons vu. L'évangile qui se répand, il n'y a pas d'indigents, il y a en suffisance pour tous, et puis voilà que, eh bien, Dieu va donner ce qui est nécessaire, les bases, les bonnes bases. Aimez-vous les uns les autres. Eh oui. Et on le verra dans la suite de notre méditation brièvement. S'il y a une chose qui n'est pas facile, c'est de s'aimer. Il semblerait que ce soit plus spontané d'avoir du ressentiment que d'avoir des bons sentiments. Alors, quand personne nous a fait du mal, etc., etc., on peut en bonne intelligence, on peut vivre en bonne intelligence, c'est vrai. Bon, c'est ce qui se passe dans la vie de la société. Quoique les gens, quelque part, sont bien obligés de s'entendre. Hein, sur un lieu de travail, il y a une hiérarchie, et puis voilà. Hein, il y a des gens qui ont des caractères plus ou moins difficiles. Ça, c'est sûr. Mais bon, il y a des raisons impérative aussi, parce que bon, voilà, si véritablement vous mettez le désordre un peu trop, vous allez vous retrouver sans rien du tout. Hein. Mais là, c'est quelque chose, je vous donne ce commandement, et c'est un commandement d'amour, de s'aimer les uns les autres. C'est pas simple, hein. Alors, je vous le lisais il y a un instant, quand il s'agit d'avoir de bons sentiments vis-à-vis de notre voisin parce qu'il est sympathique, nos amis, ceci et cela, c'est pas trop difficile. Mais ce que Jésus dit, c'est que de nous aimer les uns les autres, même quand nous avons affaire à des gens de caractère difficile. Lorsque nous avons affaire avec des gens qui, quelquefois, on aimerait bien peut-être avoir une salutation ou autre chose. Mais des gens qui, quelquefois, sont véritablement très très indélicats avec nous. Hein. C'est vrai. Hein. Il y a des gens qui sont sales. Il y a des gens qui sont grossiers. Il y a des gens qui méprisent les autres. Il y a des gens qui, à cause de leur orgueil et qui écrasent. Bon, c'est pas facile hein, de les aimer, hein. On les connaît, on les a repérés, et c'est vrai que c'est pas des gens forcément qu'on fréquente. Mais néanmoins, Jésus nous dit de nous aimer les uns les autres. Et il en parle pour l'Église, hein. Pas seulement ceux de l'extérieur. Mais il va nous donner le modèle. Il va nous dire, comme moi je vous ai aimé. Si vous, vous êtes là aujourd'hui, et si vous avez accepté ma grâce, si vous avez accepté par la foi mon sacrifice et tout ce à quoi je vous ai appelé et que je vais vous de ce dont je veux vous équiper pour devenir de véritables chrétiens, eh bien, vous prenez modèle sur moi. C'est-à-dire que moi, je vous ai aimé, et je vous ai aimé tel que vous étiez, avec vos défauts, avec votre impétuosité, avec votre irréflexion, avec quelquefois le manque de savoir-vivre et tout ça. Le Seigneur nous a appelés comme ça. Hein. Bon, qui nous appelle comme ça, c'est une chose. Parce qu'on était comme ça. C'est la nature, c'était notre nature d'origine. Maintenant qu'on soit encore comme ça après, ça pose un autre problème. C'est ça ce qui est difficile, parce qu'il y a quand même, des enseignements où il est parlé de régénération, il est question de transformation, il est question de nouvelle naissance, il est question de naître de nouveau et de ressembler à Jésus. Hein. Alors, c'est pas toujours évident. Il y a cette notion de foi, je crois que ce que Jésus m'a demandé, et c'est un commandement, est d'y obéir. Avec sa grâce. Dans les églises du premier siècle, nous avons par exemple également au chapitre 2, on va tourner une page, dans cette église primitive des premiers temps, et au chapitre 2 et au verset 42, alors c'est intéressant parce que nous avons donc cette parole intéressante. Au verset 42, il nous est dit ceci, je commençais par le verset 41. Il nous est dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Alors, on a parlé de la multitude. Là, maintenant, on se retrouve dans un autre texte qui précède ce que nous avons lu tout à l'heure. Mais néanmoins, il semblerait que, véritablement, eh bien, l'évangile prêché par Pierre le jour de la Pentecôte et puis par les autres, certainement, dans les jours suivants, eh bien, a fait recette. Hein. C'était pas quelques dizaines, pas quelques centaines, mais on voit la multitude. Donc, la multitude, c'est quand même pas... Hein, quand on emploie ce mot, ça... C'est un nombre considérable. Il nous est dit au verset 41, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. » Voilà. Donc, obéissance, foi et obéissance. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Imaginez-vous, hein, dimanche prochain, 3000 âmes ici, d'un seul coup, qu'est-ce qu'on fait ? Patrick, que tu aies mal à la gorge ou pas, tu prêches. Hein. Voilà. Ah ben, ça nous donnerait des ailes, hein. Je suis sûr que ça, on en parlerait à Saint-Nazaire. On est contre la rue d'Ypres, barrée, des cordons de gendarmerie de tous les côtés pour canaliser les gens. Je rêve. Quelque chose, hein. 3000 âmes environ. Alors, dites donc, le baptistère, là, je pense à Michel, il va y aller, hein. Voilà. Mais bon, toujours est-il que c'est ce qui s'est passé. Et voilà, justement, ce qui est intéressant. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire que ce qu'ils avaient entendu, ils le gardaient, ils le conservaient et ils le vivaient dans la communion fraternelle. Et là, on est au cœur même de notre sujet, parce que c'est quand même important de signaler que, après l'enseignement, c'est la mise en pratique, c'est l'amour en acte, la communion fraternelle. Ils ne devaient pas se connaître les uns les autres. Et vous savez, le miracle d'une église, celle-ci comme une autre, c'est que finalement, pour certains d'entre nous, il y a 10 ans, il y a 20 ans, 30 ans, on ne se connaissait pas du tout. Et aujourd'hui, on s'appelle frères et sœurs, on est de la même famille. Hein? Vous ne trouvez pas que c'est quelque chose de formidable? Mon frère, ma sœur, on a un Père commun, on a un Sauveur commun, il s'appelle Jésus. On ne se connaissait pas, on est venu de différents horizons, et c'est formidable de pouvoir s'asseoir les uns à côté des autres, chanter ensemble à l'unisson, partager finalement quelquefois des repas ensemble, hein, et de mettre quelque part aussi en commun certains moyens qui permettent à l'Église de fonctionner. Et oui, c'est pour ça que bon, c'est pas une cathédrale chez nous, pas encore, pas de montant. Mais toujours est-il que c'est quand même l'effort et la volonté des uns et des autres de se mutualiser, hein, ici à Redon, pour pouvoir offrir à chacun, et aussi avec une certaine fierté aussi, ceux qui rentrent pour la première fois, de trouver, eh bien là, une communauté, une église propre, accueillante, et qui offre le plus beau de tous les messages. Ça fait partie de ce que nous disions tout à l'heure. La communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ça, c'est quelque chose. Et il nous est dit que le résultat est toujours le même. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. On l'a lu déjà tout à l'heure. Une bénédiction, une grâce. Si vous portez beaucoup de fruits, c'était justement le texte où Jésus nous dit « Je vous donne un commandement, aimez-vous les uns les autres ». Et juste avant, une phrase ou deux phrases avant, il nous a dit « Mais c'est ainsi qu'on vous reconnaîtra que vous êtes mes disciples, que vous porterez beaucoup de fruits ». Et les fruits, on les voit, qui apparaissent tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Seigneur, c'est formidable tout ça. Et moi je dis, et je le répète ce soir, parce que j'en suis complètement convaincu, et vous ne me ferez pas changer d'avis, c'est que là où les frères et les sœurs sont unis dans un même amour pour le Seigneur, cet amour va déborder sur les frères et les sœurs qui sont tout autour, eh bien Dieu va envoyer une bénédiction et une grâce. Moi, j'ai peut-être pas fait grand-chose hein, pendant ces quelques années, partage avec vous, mais une chose qui est certaine, c'est qu'il y a une chose qui me réjouit, c'est que l'Église est en paix, elle est unie. Elle l'a pas toujours été, mais toujours est-il qu'il me semble, d'après mes appréciations d'aujourd'hui, à moins que je sois, peut-être j'ai vieilli puis que je vois plus très clair, mais toujours est-il qu'il me semble que l'Église, dans sa grande majorité, elle vit en paix, elle est dans l'unité, mais c'est là où Dieu envoie sa bénédiction. Vous savez, comme dans le psaume, c'est qu'il est beau de voir des frères demeurer ensemble, parce que c'est Dieu, c'est là où Dieu envoie sa bénédiction, et qu'est-ce qu'il est dit? Pour l'éternité. Eh oui, pour l'éternité, vous vous rendez compte? Vous savez qu'on va passer l'éternité ensemble? Alors, si vous ne me supportez pas, vous allez me supporter encore un bon bout de temps. Préparez-vous! Armez-vous! Réconfortez-vous! Enfin, je vous dis ça, c'est pour simplement que vous puissiez préparer les choses. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure, hein. Et il nous est dit que, et ça c'est quelque chose à souligner, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Pas de chichi entre nous. Ouais. Voilà. C'est véritablement, eh bien, comme une famille en quelque sorte. Hein. Louant Dieu, trouvant grâce auprès de tout le peuple, parce que le témoignage a passé. Hein. Ils se disaient, mais ces gens, ils se connaissaient pas il y a 8 jours, il y a 1 mois, il y a 1 an, et maintenant ils sont tous ensemble, et il y a quelque chose qui apparaît, et ça ne trompe pas. c'est que finalement ils s'entendent bien ensemble. Ils bénissent Dieu d'une même voix, d'un même cœur. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Faut-il rappeler que c'est pas nous qui sauvons, c'est Jésus que nous prêchons. Et le Saint-Esprit fait son œuvre en apportant la parole de Dieu prêchée, mais aussi un bon témoignage chacun de notre vie, de notre part. Et le Seigneur ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés. Dans Romains au chapitre 15, on va aller voir encore un autre texte. Ça va, je suis pas... Non, c'est bon ? Vous répondez pas, donc vous allez l'avoir jusqu'à demain matin, ça c'est clair. Romains 15, 1 à 6, c'est intéressant. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Parce que dans une église, l'église est intergénérationnelle. Il y a des jeunes gens, des jeunes filles, il y a des hommes, des femmes, de l'âge moyen, de l'âge en force, et puis il y a des personnes âgées. Il y a des enfants aussi, intergénérationnels. Alors il y a des forts, il y a des faibles. Des forts au niveau, pas seulement physique, hein, mais au niveau moral, au niveau de ceux qui sont plus avancés que d'autres, etc., etc. Alors, nous devons supporter ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Et puis un peu plus loin, au verset un petit peu plus avancé, il est dit « Or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. » Ce que nous faisons ce soir, c'est que nous sommes en train de chercher dans notre Bible l'instruction qui nous a été donnée. On a parlé que Jésus a dit « Aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. » Ça, c'est une instruction tout à fait caractérisée. « Afin que par la patience, par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Trois choses qui va être fondateur d'une vie communautaire, d'une communion fraternelle, d'un amour fraternel, et puis d'une vie individuelle en même temps. L'instruction, nous l'avons à travers la parole. « Afin que par la patience... » Ça va, vous êtes patient ? Quelqu'un qui vous monte sur le pied. « Oh, recommence, j'ai deux pieds. Celui-ci, tu fais l'autre. » Voilà. Hein ? Ça fait sourire, mais quelquefois... Bon, mais il y a des gens qui insistent pour nous faire sortir quelquefois, comme on dit, de nos gonds. Voilà. Ça peut arriver, hein, qui, et puis... Donc la patience. La patience, ça s'apprend. La patience, je ne l'ai pas. Mais Dieu va me l'apprendre. Oui, il va me l'apprendre. Et quelquefois, si je suis d'un tempérament ou d'un caractère un petit peu difficile, eh bien, il va me mettre à côté de moi des gens, soit dans la vie sociale, dans la vie professionnelle, ou même quelquefois dans la famille, qui, sans le savoir, eh bien, vont faire mon éducation. Et quelquefois en disant, mais si je pouvais passer par la fenêtre, ça me rendrait service. Excusez-moi, vous suivez pas mon raisonnement. Non, mais c'est comme ça que ça se passe. Et un mari, une femme, c'est pareil. Qu'est-ce que ma femme a un mauvais caractère? Je dis pas ça pour ma femme, mais c'est un exemple. Voilà. Qu'est-ce que mon mari est impossible à vivre? Voilà. Mais, quelque part, on se dit, si ça pouvait être autrement et... Ça pouvait être différemment, non ? Parce que le Seigneur va permettre. Et dans une église, c'est la même chose. J'ai souvent pris l'image, vous savez, des pierres qui tombent de la montagne et qui sont aiguës quand elles décrochent de la montagne. C'est des blocs de pierre et puis on pourrait se couper avec. Elles tombent dans le petit ruisseau. Ensuite, c'est un torrent. Elles roulent. Elles tombent dans la rivière. La rivière va dans le fleuve et le fleuve arrive à Saint-Nazaire. Il n'y a pas qu'à Saint-Nazaire, mais quand vous arrivez au bord de la mer, là ici, vous avez des pierres, dans certains endroits, elles sont toutes rondes. Et c'était ces mêmes pierres qui étaient aiguës. Eh bien, dans notre vie spirituelle, c'est la même chose. Dieu permet que, dans, finalement, notre vie, qui est l'image d'un fleuve, d'une rivière, etc., il y a des pierres, nous sommes pierres, et puis, on se frotte les uns contre les autres, la communion fraternelle, c'est ça. Et à un moment donné, eh bien, on a tellement été travaillé par toutes sortes de choses, qu'on devient, on devient tout rond. Façon de parler, hein, mais notre caractère s'est fait et tout ça. Hein. Ah ouais. Et vous savez, c'est ce que le Seigneur veut faire avec chacune de nos vies. Hein. Il y en a qui ont des caractères plus faciles, mais ils ont d'autres défauts. De toute façon, d'une manière ou d'une autre. Hein. Puis il y en a d'autres, et bien voilà. Au bout d'un certain temps, on a vu quelquefois des chrétiens qui sont arrivés, qui étaient un petit peu difficiles de tempérament. Et quand ils ont vieilli, le temps, 20 ans, 30 ans, et peut-être plus, des gens qui sont venus tout doux. Et vous en connaissez un? Il s'appelle Moïse. Moïse, quand il avait certainement 20 ou 30 ans, il a tué un homme parce qu'il était irritable. Hein, il était prince d'Égypte et il supportait rien du tout. Mais quand il est arrivé à Saint-Vincent, ce que je vous souhaite, eh bien, il nous a dit qu'il était l'homme le plus doux de la terre. Moïse a été bagboulé de droite et de gauche. Il lui a fallu 40 ans au désert, pour dire que ça fait son effet. Mais toujours est-il que quand il est arrivé à l'âge de la vieillesse, eh bien, il nous a dit qu'il était mûr à point pour supporter le peuple d'Israël. Et il faut dire que quand même, c'était des bons. Il n'était pas mauvais, pour dire le contraire et tout ça. Donc, tout ce qui est écrit, c'est pour nous. On parle de Moïse. Instruction, par la patience, Dieu veut nous apprendre, par la consolation, parce que quelquefois on souffre. Et il n'y a rien qui fait plus souffrir que l'affect, que les sentiments. Et là aussi, quelquefois on prend des drôles de leçons. La consolation que donnent les Écritures, parce que si j'ai un baume et si j'ai un remède, c'est de pouvoir me retourner toujours vers la parole de Dieu, parce que quand je lis les psaumes, dites donc, c'est quelque chose qui me fait du bien. Et quand on voit un homme comme David, qui lui a tourné boulé et dans tous les sens, je pense qu'il a appris des choses. Nous possédions l'espérance, toujours. Voilà. On regarde le Seigneur, que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns vers les autres, selon Jésus-Christ. Vous savez que le Seigneur, quand il est venu sur la terre, pendant 3 ans, il a dû en supporter. Il a dû véritablement en voir de toutes les couleurs avec certains. Un Pierre qui court dans tous les sens et qui pose n'importe quelle question. Vous avez un Judas qui ne dit rien et qui est en train de préparer un mauvais coup. Vous avez là toutes sortes de gens de différents tempéraments. Il a dû en voir, selon les sentiments qui sont en Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, qu'est-ce qu'on fait d'une seule bouche? C'est ce qu'on va faire dimanche matin. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure en chantant. On glorifie le Seigneur. Ensemble. Quand il est dit que il partageait le pain. Moi, je dis que quand on partage le pain, comme on le fait tous les dimanches, ça s'appelle la Sainte Cène, vous le savez, je vous ne le rappelle pas. Mais toujours est-il qu'il faut absolument que lorsque nous sommes devant, il nous ait dit, éprouvez-vous, chacun, pour savoir si vous êtes encore dans la foi pour prendre la Sainte Cène. C'est pas seulement parce que nous avons fait des fautes charnelles dans la semaine, ça chacun le sait, d'une manière ou d'une autre, de quelque nature que ce soit, mais quelquefois aussi, et moi je pense que le texte, c'est aussi de nous entendre les uns les autres. Prendre la Sainte Cène avec mon frère et ma sœur, où je suis en mésentente, où je ne peux pas finalement m'accorder, je pense qu'il y a un problème. Parce que nous prenons le corps de Jésus, nous annonçons son retour, et nous célébrons l'expiation qui nous a donné le pardon des péchés. Donc il faut réparer, il faut absolument que les choses, ou alors on ne prend pas la Sainte Cène tout simplement. D'une seule bouche, vous glorifiez le Seigneur, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres pour la gloire de Dieu. Les fruits de l'Esprit. Les fruits, l'amour fraternel en acte. C'est pas de dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, parce qu'il y a souvent des gens qui, quelquefois, on les a entendus, même des chrétiens, qu'est-ce que je vous aime, qu'est-ce que je vous aime. Et puis, on s'aperçoit que ça se traduit pas toujours dans les actes. Donc, il faut que ça soit vraiment concret. Alors, je vais bientôt finir. Mais dans Galates, je voudrais simplement le rappeler, parce que c'est important. Si je suis instruit par les Écritures, si j'ai appris la patience, et le Seigneur va me l'apprendre, c'est son école. Si véritablement, j'ai cette consolation, voilà, parce que la route est difficile, c'est pas toujours facile. Le Seigneur, quelquefois, a une école rigoureuse. À ce moment-là, il nous a dit l'espérance. L'espérance d'être comme Jésus. Et Jésus, vous savez comment il était? Il était rempli du fruit de l'Esprit. La première chose, c'est l'amour. La deuxième chose, c'est la joie. Pas un triste chrétien. Toujours en train de dire, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Non. Il y a des fois, ça va pas. Mais avec la grâce que Dieu nous donne, on peut dire, moi je prends véritablement cette joie, parce que c'est quelque chose qui vient de l'esprit. La paix, la patience, on en a parlé, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et toutes ces choses sont en Jésus-Christ, et c'est lui qui va les faire. Tout ce que nous venons de citer, les 9 fruits, c'est pas mon tempérament et c'est pas mon caractère, je parle pour moi, mais c'est un fruit surnaturel. C'est pas quelque chose de naturel, autrement on les aurait pas appris les fruits spirituels. On les aurait appelés les fruits naturels de l'humanité, tout simplement. Non, c'est pas en moi, mais Dieu veut les faire développer. Là où j'aime pas, Dieu me dit, tu vas apprendre à aimer. là où tu as toujours ce tempérament de tristesse, de mélancolie, eh bien, Dieu va se servir de toi, et ça c'est quelque chose, c'est un miracle, pour que tu sois joyeux et que tu communiques la joie. La paix, alors que quelquefois tu veux toujours te guerroyer, batailler, non ? Ça, c'est un fruit de l'esprit. Et le Seigneur, si nous le désirons, c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Moi, je me l'applique à moi-même. Hein. Souvent, quand je prie, le matin, je dis, Seigneur, crée en moi, selon ton vouloir, selon le vouloir, ton vouloir, et le faire selon ton bon plaisir. Quelquefois, j'en vois pas toujours les résultats. Mais je persévère quand même à demander, puisque j'ai pas besoin de voir les résultats, c'est les autres qui vont les voir à ma place. On dit, tiens, il a changé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est bien hein, quand c'est comme ça. Hein. Soyons insatisfaits de ne pas être encore véritablement à la stature. Mais Dieu va nous faire, parce que nous, il nous voit déjà finis. Vous savez? Oui, oui. C'est comme un père qui a un garçon. Il le voit déjà quand il deviendra un homme. Il ne va pas le voir quand il aura encore 40 ans comme un enfant. Hein. Non, il va faire en sorte de lui donner l'éducation, de lui donner l'instruction, de lui donner la discipline, de lui donner tout ce qui, pour qu'il devienne un homme. Eh bien, Dieu, qui n'est pas un homme, nous voit déjà finis, vous vous rendez compte? Vous voulez le savoir? Ben, vous le saurez qu'à la fin. Hein. Faudra attendre. Et ça, ça exerce la patience. Hein. Mais oui, parce que dans le ciel, il va pas y avoir des demi-chrétiens, des demi-convertis, des demi-demi-demi, non. Ça va être des entiers. Hein. On arrivera fini de l'autre côté, les fruits de l'esprit. Et puis, c'est un challenge à remporter. Hein. Ils étaient que d'un même cœur et d'un même esprit. Ah oui. Je veux pas dire davantage, mais quand on regarde, par exemple, le serment sur la montagne, dans Matthieu chapitre 5, hein, quand il est dit « Aimez vos ennemis », oh là là, tu m'en demandes de drôle, là. Aimez nos ennemis. Si on te demande de manteau, tu lui donnes également ta chemise. Voilà, si on te frappe sur la joue, tu tends l'autre. Sans provocation. Mais c'est comme ça. Il dit, soyez donc parfaits comme votre Père est parfait. Alors on sera jamais parfait comme notre Père céleste est parfait, mais néanmoins, nous avons été faits à l'image de Dieu. Créés à l'image de Dieu. Donc il y a moralement, spirituellement, déjà, sur la terre, une préparation, et nous le serons parfaitement de l'autre côté. Et moi j'aime bien savoir que l'Église est une famille, qu'ils étaient que d'un seul cœur, d'un même cœur et d'un même sentiment, une même âme. Ben écoutez, on comprend que quand on regarde par derrière, on se dit, mais oui, c'était comme ça. Et moi, je crois encore à la possibilité de l'Église du 21e siècle d'être encore comme ça. En tous les cas, d'y tendre, d'y aspirer. Que le Seigneur nous bénisse ce soir. Que le Seigneur nous donne sa grâce. Alors, c'était peut-être pas un message d'évangélisation proprement dit, mais je pense que ça nous fait du bien et de pouvoir prier le Seigneur comme on va le faire dans quelques instants et de lui dire, eh bien, Seigneur, c'est toi qui nous as appelés, c'est toi qui nous as choisis, c'est toi qui nous as élus, c'est toi qui va nous équiper, c'est toi qui va nous donner tout ce qui correspond, eh bien, à ce que tu attends de chacun d'entre nous parce que toi, ton plan, tu le vois déjà accompli en nous. Alors, on peut le remercier maintenant si vous voulez bien. Seigneur, nous voulons te remercier parce que lorsque nous ouvrons les pages de notre Bible, nous pouvons dire, regardez comment ils s'aiment, comment ils se sont aimés, ces hommes et ces femmes. Et ils se sont aimés parce qu'il y avait une puissance, parce que c'était la puissance de l'amour, et non pas l'amour des uns pour les autres au départ, mais l'amour pour un sauveur commun, un seigneur commun, celui qui avait donné cette parole, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Seigneur, notre référence, c'est vraiment ta parole. Et Seigneur, comment pourrions-nous y arriver? Moi, je sais que personnellement, je me sens tellement incapable. Mais une chose qui est certaine, c'est que, en effet, tu nous as laissé quelques clés dans la prière où tu nous dis, en effet, de créer en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. C'est pas mon bon plaisir à moi. Ce n'est pas de faire comme je veux, comme je pense, selon ma volonté, mais c'est de faire ta volonté, Seigneur. Et c'est toi qui vas le créer, dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos sentiments, dans stimulant notre volonté, notre intelligence, parce que nous savons, Seigneur, que l'Église, elle n'a pas de visage, elle n'a pas de langage, elle a un visage chez l'amour, et son langage, c'est tout simplement, Père éternel, de nous aimer les uns les autres. Et nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ta parole ce soir. Merci parce que nous croyons qu'il y a toujours quelque chose de bon, d'excellent, Seigneur, à retirer. Et lorsque nous compilons, en effet, Seigneur, ces différents textes, nous nous apercevons qu'il y a une belle harmonie, qu'il y a là, en effet, une belle unité. Et nous voulons, Seigneur, te demander que tu crées en nous les fruits de l'Esprit, comme nous les avons cités. Et Seigneur, le premier de tous, eh bien, c'est l'amour. Oui, Jésus, nous voulons te demander que tu nous aides à aimer comme toi, comme tu nous as aimés. Et Seigneur, tu nous l'as montré en mourant à la croix du calvaire. Seigneur, que tu as donné ta vie, que tu t'es sacrifié. Et moi, je crois à ton sacrifice. Je crois que tu es mort pour moi, pour nous, Seigneur, et que tu es ressuscité. C'est une nouvelle extraordinaire, parce que l'amour rend vivant. L'amour donne la vie, et elle le donne pour l'éternité. Merci, Jésus. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.